Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 4, des besoins de l'industrie et des idées d'un homme seul qui jouit de tous ses sens. Chapitre 1. Comment cet homme apprend à satisfaire à ses besoins avec choix. La statue sans besoin. Si nous imaginons que la nature dispose les choses de manière à prévenir tous les besoins de notre statue, et que voulant la toucher avec les précautions d'une mère qui craint de blesser ses enfants, elle en écarte jusqu'aux plus légères inquiétudes et se réserve à elle seule le soin de veiller à sa conservation, cet état nous paraîtra peut-être digne d'envie. Néanmoins, que serait-ce qu'un homme de cette espèce? Un animal enseveli dans une profonde léthargie. Il est, mais il reste comme il est. À peine se sent-il incapable de remarquer les objets qui l'environnent, incapable d'observer ce qui se passe en lui-même, son âme se partage indifféremment entre toutes les perceptions auxquelles ses sens ouvrent un passage. En quelque sorte, semblable à une glace, sans cesse il reçoit de nouvelles images et jamais il n'en conserve aucune. En effet, quelle occasion aurait cet homme de s'occuper de lui ou de ce qui est au dehors? La nature a tout pris sur elle. Et elle a si fort prévenu ses besoins qu'elle ne lui laisse rien à désirer. Elle a voulu éloigner de lui toute inquiétude, toute douleur, mais pour avoir craint de le rendre malheureux, elle le borne à des sensations dont il ne peut connaître le prix et qui passent comme une ombre. Avec des besoins faciles à satisfaire. J'exige donc qu'elle paraisse moins occupée du soin de prévenir les maux dont il peut être menacé, qu'elle s'en repose quelque peu sur lui, et qu'elle se contente de mettre à sa portée toutes les choses nécessaires à ses besoins. Dans cette abondance, la statue forme des désirs, mais elle a dans le moment toujours de quoi se satisfaire. Toute la nature semble encore veiller sur elle. À peine a-t-elle permis que son repos fût interrompu par le moindre malaise, qu'elle paraît s'en repentir, et qu'elle donne tous ses soins à prévenir une plus grande inquiétude. Par cette vigilance, elle la met à l'abri de bien des maux, mais aussi elle la frustre de bien des plaisirs. Le malaise est léger, le désir qui le suit est peu de chose. La prompte jouissance ne permet pas qu'aucun besoin augmente considérablement. Et le plaisir, qui en fait tout le prix, est proportionné à la faiblesse du besoin. Le repos de notre statut étant aussi peu troublé, l'équilibre s'entretient presque toujours également dans toutes les parties de son corps, et son tempérament souffre à peine quelque altération. Elle doit, par conséquent, se conserver longtemps, mais elle vit dans un degré bien faible et qui n'ajoute à l'existence que le moins qu'il est possible. Difficile à satisfaire. Changeons la scène et supposons que la statue ait des obstacles à surmonter pour obtenir la possession de ce qu'elle désire. Alors les besoins subsistent longtemps avant d'être soulagés. Le malaise, faible dans son origine, devint insensiblement plus vif. Il se change en inquiétude. Il se termine quelquefois à la douleur. Tant que l'inquiétude est légère, le désir a peu de force. La statue se sent peu pressée de jouir. Une sensation vive peut la distraire et suspendre sa peine. Mais le désir augmente avec l'inquiétude. Il vient un moment où il agit avec tant de violence qu'on ne trouve de remède que dans la jouissance. Il se change en passion. La statue encore sans prévoyance. La première fois que la statue satisfait à un besoin, elle ne devine pas qu'elles doivent l'éprouver encore. Le besoin soulagé, elle s'abandonne à sa première tranquillité. Ainsi, sans précaution, pour l'avenir, elle ne songe qu'au présent. Elle ne songe qu'à écarter la peine que produit un besoin au moment qu'elle souffre. Comment elle en devient capable? Elle demeure à peu près dans cet état tant que ses besoins sont faibles, en petit nombre, et qu'elle trouve peu d'obstacles à les soulager. Accoutumée à régler ses désirs sur l'intérêt, qui naît du contraste des plaisirs et des peines, il n'y a que l'expérience des maux qu'elle souffre, pour ne les avoir pas prévus, qui puisse lui faire porter ses vues au-delà de sa situation présente. Le passé peut seul lui apprendre à lire dans l'avenir. Elle ne peut donc remarquer la fréquence de ses besoins et les tourments qu'elle a essuyés, toutes les fois qu'elle n'a pas eu assez tôt de quoi y remédier, qu'elle ne se fasse bientôt une habitude de les prévoir et de prendre des précautions pour les prévenir ou pour les soulager de bonne heure. Dans le temps même où elle n'a pas le moindre malaise, l'imagination lui rappelle tous les maux auxquels elle a été exposée et les lui représente comme prêts à l'accabler encore. Aussitôt, elle ressent une inquiétude de la même espèce que celle que le besoin pourrait produire. Elle souffre d'avance quelque chose de semblable à ce qu'elle souffrirait si le besoin était présent. Combien l'imagination ne la rendrait-elle pas malheureuse si elle bornait là ses effets? Mais elle lui retrace bientôt les objets qui ont servi plusieurs fois à la soulager. Dès lors, elle lui fait presque goûter les mêmes plaisirs que la jouissance, et l'on dirait qu'elle ne lui a donné de l'inquiétude pour un mal éloigné qu'afin de lui procurer une jouissance qui anticipe sur l'avenir. Ainsi, tandis que la crainte la menace de maux semblables à ceux qu'elle a déjà souffert, l'espérance la flatte de les prévenir ou d'y remédier. L'une et l'autre lui dérobent à l'envie le sentiment du moment présent pour l'occuper des temps qui n'est point encore, ou qui même ne sera jamais, et de ces deux passions naissent le besoin de précaution et l'adresse à en prendre. Elle passe donc tour à tour de l'une à l'autre suivant que les dangers se répètent et qu'ils sont plus ou moins difficiles à éviter, et ses passions acquièrent tous les jours de nouvelles forces. Elle s'effraie ou se flatte à tout propos. Dans l'espérance, l'imagination lui lève tous les obstacles, lui présente les objets par les plus beaux côtés et lui fait croire qu'elle en va jouir. Illusion qui souvent la rend plus heureuse que la jouissance. Dans la crainte, elle voit tous les maux ensemble. Elle en est menacée. Elle touche au moment où elle en doit être accablée, elle ne connaît aucun moyen de les éviter, et peut-être serait-elle moins malheureuse de les ressentir. C'est ainsi que l'imagination lui présente tous les objets qui ont quelque rapport à l'espérance ou à la crainte. Tantôt, l'une de ses passions domine, tantôt l'autre, et quelquefois elle se balance si bien qu'on ne saurait déterminer laquelle des deux agit davantage. Destinée à rendre la statue plus industrieuse sur les mesures nécessaires à sa conservation, elles paraissent veiller à ce qu'elle ne soit ni trop heureuse ni trop malheureuse. Progrès de sa raison à cet égard. Instruite par l'expérience des moyens qui peuvent soulager ou prévenir ses besoins, elle réfléchit sur les choix qu'elle a à faire. Elle examine les avantages et les inconvénients des objets qu'elle a jusqu'à présent fui ou recherchés. Elle se rappelle les méprises où elle est tombée pour s'être souvent déterminée trop à la hâte et avoir obéi aveuglément au premier mouvement de ses passions. Elle regrette de ne s'être pas mieux conduite. Elle sent que désormais, il dépend d'elle de se régler d'après les connaissances qu'elle a acquises et s'accoutumant à en faire usage, elle apprend peu à peu à résister à ses désirs et même à les vaincre. C'est ainsi qu'intéressée à éviter la douleur, elle diminue l'empire des passions pour étendre celui que la raison doit avoir sur sa volonté et pour devenir libre. L'ordre de ses études est déterminé par ses besoins. Dans cette situation, elle étudie d'autant plus les objets qui peuvent contribuer à ses plaisirs ou à ses peines, qu'elle sait avoir souffert pour ne les avoir pas assez connus et que l'expérience lui prouve qu'il est à sa disposition de les mieux connaître. Ainsi, l'ordre de ses études est déterminé par ses besoins. Les plus vifs et les plus fréquents sont donc ceux qui l'engagent dans les premières recherches qu'elle fait, et principalement par le besoin de nourriture. Tel est le besoin de nourriture comme plus nécessaire à sa conservation. En soulageant sa faim, elle renouvelle ses forces, et elle sent qu'il lui est important de les renouveler pour jouir de toutes ses facultés. Tous ses autres besoins cèdent à celui-là. La vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat ne semble fait que pour découvrir et procurer ce qui peut flatter le goût. Elle prend donc un nouvel intérêt à tout ce que la nature offre à ses regards. Sa curiosité ne se borne plus à démêler la couleur des objets, leur odeur, leur figure, etc. Si elle les étudie par ses qualités, c'est surtout pour apprendre à reconnaître ceux qui sont propres à la nourrir. Elle ne voit donc point un fruit dont elle a mangé, elle ne le touche point. Elle ne le sent point, sans juger qu'il est bon ou mauvais au goût. Ce jugement augmente le plaisir qu'elle a de le voir, de le toucher, de le sentir, et ce sens contribue à lui rendre les autres d'un plus grand prix. Il a surtout beaucoup d'analogies avec l'odorat. Le parfum des fruits l'intéressait bien moins avant qu'elle eût l'organe du goût, et le goût perdrait toute sa finesse si elle était privée de l'odorat. Mais dès qu'elle a ces deux sens, leurs sensations se confondent et en deviennent plus délicieuses. Elle donne à ses idées un ordre bien différent de celui qu'elle avait auparavant, parce que le besoin qui détermine ses facultés est lui-même bien différent de ceux qui l'ont mû jusqu'alors. Elle s'applique avec intérêt à des objets auxquels elle n'avait point encore donné d'attention, et ceux dont elle peut se nourrir sont aussi ce qu'elle distingue en plus de classe. Elle s'en fait des idées complexes en les considérant comme ayant telle couleur, telle odeur, telle forme et telle saveur à la fois, et elle se forme à leur occasion des idées abstraites et générales en considérant les qualités qui sont communes à plusieurs. Jugement qui donne plus d'étendue à ce besoin. Elle les compare les uns avec les autres et elle désire d'abord de se nourrir par préférence de ses fruits, où elle se souvient d'avoir trouvé un goût qui lui a plu davantage. Dans la suite, elle s'accoutume peu à peu à cette nourriture et l'habitude qu'elle s'en fait devient quelquefois si grande qu'elle influe autant dans son choix que dans le plaisir même. Elle mêle donc bientôt des jugements au plaisir qu'elle trouve à en faire usage. Si elle n'en mêlait pas, elle ne serait portée à manger que pour se nourrir. Mais ce jugement, il est bon, il est excellent, il est meilleur que tout autre, lui fait un besoin de la sensation qu'un fruit peut produire. Ce qui suffit alors à la nourrir ne suffit pas à son plaisir. Il y a en elle deux besoins, l'un causé par la privation de nourriture, l'autre par la privation d'une saveur qui mérite la préférence, et ce dernier est une faim qui la trompe quelquefois et qui la fait manger au-delà du nécessaire. Excès où tombe la statue. Cependant, son goût se blase pour certains fruits, alors où elle s'en dégoûte tout à fait, ou si elle désire encore d'en manger, ce n'est plus que par habitude. Dans ce dernier cas, elle s'en nourrit en espérant toujours de le savourer, comme elle a fait auparavant. Elle y est si fort accoutumée qu'elle s'imagine toujours qu'elle va retrouver un plaisir pour lequel elle n'est plus au fait, et cette idée contribue à entretenir son désir. Frustrée dans son espérance, son désir n'en devient que plus violent. Elle fait de nouveaux essais, et elle en fait jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de continuer. C'est ainsi que les excès, où elle tombe, ont souvent pour cause une habitude contractée, et l'ombre d'un plaisir que l'imagination lui retrace sans cesse et qui lui échappe toujours. Elle en est punie. La douleur l'avertit bientôt que le but du plaisir n'est pas uniquement de la rendre heureuse pour le moment, mais encore de concourir à sa conservation, ou plutôt de rétablir ses forces pour lui rendre l'usage de ses facultés, car elle ne sait pas ce que c'est que se conserver. Combien il était nécessaire de l'avertir par la douleur. Si la nature, par affection pour elle, n'eût attaché à ses effets que des sentiments agréables, elle l'eût trompée et se fût trompée elle-même. La statue, croyant chercher son bonheur, n'eût couru qu'à sa perte. Mais ces avertissements ne peuvent se répéter qu'elle n'apprenne enfin qu'elle doit mettre un frein à ses désirs, car rien n'est si naturel que de regarder, comme l'effet d'une chose, ce qui vient constamment à sa suite. Dès lors, elle n'éprouvera plus de pareils désirs que l'imagination ne lui retrace aussitôt tous les maux qu'elle a souffert. Cette vue lui fait craindre jusqu'aux objets qui lui plaisent davantage, et elle est entre deux inquiétudes qui se combattent. Si l'idée des peines se réveille avec peu de vivacité, la crainte serait faible et ne fera que peu de résistance. Si elle est vive, la crainte sera forte et tiendra plus longtemps en suspens. Enfin, cette idée pourra être à un point où, éteignant tout à fait le désir, elle inspirera du dégoût pour un objet qui avait été souhaité avec ardeur. C'est ainsi que, voyant tout à la fois du plaisir et du danger, à préférer les fruits qu'elle aime davantage, elle apprendra à se nourrir avec plus de choix, et que, trouvant plus d'obstacles à satisfaire ses désirs, elle en sera exposée à des besoins plus grands. Car ce n'est pas assez qu'elle remédie à l'inquiétude causée par le besoin de nourriture, il faut encore qu'elle apaise l'inquiétude que produit la privation d'un plaisir et qu'elle l'apaise sans danger.